Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Midi 12 Weekend, partie 2. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, de 12h à 13h, des débats avec mes grands témoins que je vous présente dans quelques instants. De 13h à 14h, un grand journal, mais tout de suite un flash info avec Alexis Vallée.
Réforme des retraites, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne réuniront ministres et majorité la semaine prochaine. Le chef de l'État devrait, je cite, « rappeler les fondamentaux et mettre tout le monde en ordre de marche », selon un membre de la majorité. Pour l'entourage présidentiel, toutes les options restent néanmoins sur la table. Un sujet épineux qui divise même au sein de la majorité. Hausse des expulsions de clandestins, plus 20% entre janvier et août 2022 par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, le ministère de l'Intérieur a enregistré 12 708 sorties du territoire contre 10 574 en 2021. Le gouvernement penche d'ailleurs vers un durcissement de la loi. Au programme de la loi immigration, faciliter les expulsions, refondre le droit d'asile et faciliter l'intégration. L'aéroport de Montpellier fermé pour une durée indéterminée. À 2h50 cette nuit, un appareil de l'aéropostale a raté son atterrissage. Il a terminé dans l'étang de Moguio, en bout de piste. Le nez de l'avion est actuellement immergé, mais les trois personnes à bord sont indemnes. Et puis J-1 avant les élections législatives en Italie, à gauche comme à droite, tous les ténors ont tenu leur dernier meeting avec l'espoir de séduire les 20 à 25% d'électeurs indécis. L'alliance, dominée par l'extrême droite, reste favorite dans les sondages.
Merci beaucoup cher Alexis, on vous retrouve dans 30 minutes. Allez, tout de suite, Midi News Weekend, partie 2, c'est parti. À la une de cette deuxième partie de Midi News Weekend, on va revenir sur ce classement qui fait très mal pour nous, Français. Classement mondial réalisé par Numbeo. La France serait aujourd'hui plus dangereuse que le Mexique. On en débat avec nos grands témoins de l'actualité. C'était il y a tout juste un an. Les toxicomanes des Jardins d'Éole à Paris étaient évacués pour être déplacés ailleurs dans la capitale, cette fois du côté de la porte de la Villette. Un an plus tard, la situation est déplorable. Le quartier est désormais gangréné par le trafic de crack, les agressions, la prostitution. Aujourd'hui, les riverains se rassemblent pour manifester leur colère. Croient-ils encore en l'action publique? On en parle. On évoquera aussi cette violente agression dont a été victime un lycéen de 15 ans dans le Val d'Oise. Cela s'est passé mardi. Une vidéo accablante a circulé sur les réseaux sociaux. On en parle aussi dans cette émission. Enfin, on prendra la direction de l'Ukraine. Les habitants des régions ukrainiennes occupées par l'armée russe sont appelés aux urnes dans un référendum de rattachement à la Russie. On évoquera les méthodes un peu surprenantes de ce référendum. Nous serons avec notre spécialiste Harold Iman. Voilà, c'est parti. Ravi de vous accueillir. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 14h et j'accueille avec beaucoup de plaisir Naïma Mfadel, essayiste. Soyez la bienvenue, toujours aussi élégante Naïma.
Merci, bonjour Thierry.
Kevin Bossuet, professeur d'histoire.
Bonjour Thierry.
Ravi de vous accueillir. Louis Morin, journaliste. Vous ne me quittez bonjour. Pas ce matin, décidément. C'est une journée complète.
Journée continue avec vous Thierry.
Et évidemment, Harold Iman qui ne me quitte pas, puisque évidemment, c'est notre spécialiste politique étrangère. Et on va parler, mon cher Harold, de ce qui se passe en Ukraine. On va commencer avec ce classement accablant, l'image de la France en termes d'insécurité. Je vais vous parler de ce classement mondial, Numbeo, publié par nos confrères du Figaro. Comment les touristes perçoivent la France? Le résultat est, on peut le dire, sans appel. Explication de Sandra Sumbo. On en parle juste après.
12 villes françaises font partie des plus sûres au monde. C'est ce que révèle le dernier classement de Numbeo. Elles sont situées parmi les 453 classées, mais seulement une se trouve dans le top 200. C'est Strasbourg. Elle occupe la 166e place. Nantes, vous le voyez, est le mauvais élève avec une position 407e position et un indice de sécurité à 34,3%. Au niveau européen, la France est à la traîne. C'est le dernier pays. La cote de plusieurs villes a même chuté entre janvier 2021 et juillet 2022. C'est le cas de Paris, 350e, Nantes et Marseille, 388e. Elles sont même loin derrière des villes comme Téhéran, Medellin ou encore La Havane. Au niveau mondial, la situation reste assez inquiétante. On retrouve la France en bas de tableau. Elle se situe derrière la Turquie, le Pakistan, le Mexique ou encore la Malaisie. Elle se retrouve juste devant le Brésil et l'Afrique du Sud qui occupent respectivement les deux dernières places du classement.
Allez, comme d'habitude, si vous êtes fidèle à cette émission, un petit tour de table rapide. Quel est votre ressenti lorsque vous voyez la situation de la France aujourd'hui, ma chère Naïma Mfadel? C'est juste catastrophique, là. On sait que le Mexique a quand même une réputation, voilà, et la France est juste derrière le Mexique.
Hein. Ouais, c'est accablant. C'est, moi, je ressens de la tristesse, en fait, parce que notre pays était connu pour la beauté de ses paysages, de ses monuments, de sa gastronomie. De l'art de vivre à la française. Paris, tous les amoureux rêvaient du monde entier, rêvaient de venir à Paris. Dans les films, on parlait de Paris. Enfin, tout ça, ça faisait rêver. Donc, il y avait une image d'Épinal qui, aujourd'hui, malheureusement, n'est plus. Et c'est triste, mais nous, on le voit, en fait, tout simplement. Nous, on le voit au quotidien. On voit bien les villes qui ont complètement changé, toute cette insécurité, rien que Paris. Moi, je viens de province, donc j'ai vu le changement en 20 ans de Paris. Donc, c'en est triste et j'espère qu'aujourd'hui, nos ministres, notamment le ministre Dupond-Moretti, ne va pas nous dire « c'est un sentiment ». Voilà, parce que ça serait vraiment... je suis vraiment, mais vraiment très triste.
Je me tourne vers vous, Kevin Bossuet. Je suis persuadé que vous allez me dire que ce résultat ne vous surprend pas. Je vous ai très souvent autour de mes plateaux et je sais que souvent vous évoquez la situation de la France et cette évolution. Et bien là, nous y sommes là.
Mais évidemment que ça ne m'étonne absolument pas. Pendant des décennies, la France était un modèle. On voulait venir en France. Les touristes étaient fascinés par la France. Paris était la ville lumière. Et aujourd'hui, aller à Paris, mais c'est devenu un enfer entre la saleté, le bruit, les embouteillages, mais surtout l'insécurité avec des transports publics qui sont gangrénés par les incivilités. C'est quelque chose qui n'est plus possible. L'été dernier, je suis allé en Pologne. Je suis allé en Hongrie, je suis allé en Roumanie, mais j'ai goûté au plaisir de pouvoir me déplacer en toute quiétude et en toute sécurité. Je voyais des femmes qui étaient légèrement vêtues, parfois à 23h, à minuit dans les rues, on ne les embêtait absolument pas. Et la vérité, c'est que ce n'est pas... C'est d'abord la faute des délinquants, mais c'est aussi de la faute de l'État. À partir du moment où l'État est laxiste, où l'État n'agit plus, où l'État n'essaye même plus de lutter contre cette insécurité, c'est finalement le pacte social qui s'envole. On a des Français qui sont de plus en plus malheureux en France. Moi, j'ai des amis autour de moi qui pensent de plus en plus à partir. On va progressivement vers une fuite des cerveaux. Et encore une fois, c'est l'image de la France qui est écornée. Donc oui, moi, ça me fait beaucoup de peine, mais malheureusement, ça ne m'étonne absolument pas.
Louis Morin, votre ressenti.
Thierry, cette étude, elle est extrêmement intéressante en deux points. Tout d'abord, le premier, c'est qu'elle nous rappelle à quel point l'insécurité, ça a un impact économique. On voit aujourd'hui ce sentiment d'insécurité chez les touristes qui, en conséquence, vont probablement moins venir en France. À terme, c'est l'image de la France qui est impactée et par conséquent, on sait que ça va avoir des conséquences économiques. Le deuxième point, c'est que la sécurité, on le voit avec cette étude, ce n'est pas une affaire de richesse ou de développement. La sécurité, c'est une affaire de volonté. Vous avez des pays qui sont beaucoup moins développés que la France, qui sont loin devant dans ce classement. Vous avez le Mexique, la Colombie et bien d'autres, hein, puisque de toute façon, vous le voyez, on est 27e.
On est bien 27e.
Hein. On est bien derrière d'autres pays. Non, c'est une question de volonté et c'est une question d'arsenal juridique. Les Émirats arabes unis, ils ont beaucoup de travailleurs pauvres, ils ont quasiment aucune délinquance. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté de faire, de lutter contre la délinquance dans ce pays. Il y a une fermeté extrêmement puissante. Et on le voit, lorsque vous allez aux Émirats arabes unis, eh bien vous avez un sentiment de quiétude. Vous pouvez vous promener tranquillement. Je ne connais pas un touriste qui a été agressé aux Émirats arabes unis. Malheureusement, ce n'est pas la même situation en France ou à Paris.
Alors, ce qui est terrible aussi, c'est lorsqu'on regarde le classement de nos villes. Sur les 12 villes françaises présentes dans le classement, ça fait mal. Hein. Ça fait vraiment très mal. Hein. Seule une figure parmi les 200 premières, c'est Strasbourg, 188e, sur un total de 453. Pour le reste, c'est la cata, on peut le dire. Hein. Bordeaux, 272. Toulouse, 282. Paris, on en parlait, mon cher Kevin, 350. Marseille, 388. Bref, c'est accablant.
Non, mais c'est accablant, mais on le voit nous-mêmes. Alors maintenant, c'est vrai que ça a un impact en plus sur le tourisme. Et que, en plus, que maintenant, c'est. Enfin, ce qui change pour nous, c'est que nous, on le voyait. Mais on avait quand même ce sentiment que les autres ne le voyaient pas. Mais aujourd'hui, on voit que le monde entier le voit. Et c'est ça qui est vraiment accablant et d'une tristesse absolue. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il faut absolument qu'on mette en place une politique ferme pour inverser cette tendance. Vous citiez les Émirats Arabes Unis, mais il faut voir, hein, vous jetez un papier, il faut voir ce que vous risquez. C'est-à-dire que ça montre bien que s'il y a une politique ferme, et avec vraiment le souci de cette politique, parce qu'on peut dire qu'on peut vouloir une politique ferme, mais pas avoir le souci, il faut avoir le souci d'une politique ferme, on n'y arrivera pas.
Alors, Kevin, vous parlez souvent d'une ville que je connais très bien, c'est la ville de Nantes. Oui. Vous la citez souvent en exemple, hein. Vous avez mis beaucoup de warnings. Et là, on regarde, 407e place.
Mais bien sûr. Ah ben Nantes. Et c'est une dégradation qui est récente. Il y a encore plusieurs années, il faisait très bon vivre à Nantes. Et on voit que là, ça commence à se dégrader à cause du laxisme ambiant, avec une montée notamment du trafic de drogue dans certains quartiers et même dans la ville-centre de Nantes. Et le pire, c'est, enfin, ce qui me choque, moi, c'est cette déconnexion entre les politiques et la population qui vit quotidiennement l'insécurité. Quand M. Macron refuse de parler d'ensauvagement, quand M. Dupond-Moretti dit que la France n'est pas un coupe-gorge, mais ce n'est pas ce que l'on vit au quotidien. Et après, on s'étonne d'une montée des populismes, d'une montée de la droite radicale. Regardez ce qui s'est passé en Suède, berceau de la social-démocratie avec une alliance inédite entre la droite et l'extrême droite. Regardez ce qui est en train de se passer en Italie. Et au milieu de ça, il y a évidemment Mme von der Leyen à la tête de la Commission européenne qui nous raconte que Viktor Orban, que la Pologne, que l'Italie, c'est affreux, c'est le fascisme, il faut des sanctions. Mais ces dirigeants-là sont élus démocratiquement, ces dirigeants-là font régner la sécurité dans leur pays, ces dirigeants-là défendent l'identité des Européens. Donc à un moment, cette déconnexion n'est pas possible, il va falloir prendre ce problème à bras-le-corps, parce que sinon, on va vers une vague populiste en Europe au cours des prochaines années.
Louis Morin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pensez que ceux qui nous gouvernent vont sentir le message, parce qu'on en parle beaucoup autour des plateaux de CNews, de cette insécurité montante, galopante, etc. Est-ce que là, avec un tel sondage, une telle enquête, vous pensez qu'ils vont prendre conscience de la situation de la France?
J'aimerais vous dire oui, mais le problème, c'est que ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, qu'on fait ce constat de différentes manières. Il y a des études, il y a des rapports, il y a des témoignages, on en parle régulièrement sur les plateaux télé, et la réalité, c'est que rien n'a changé. Rien n'a changé. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il faut une réforme structurelle de la justice, et notamment de la justice des mineurs, que personne n'ose faire. Et puis, le deuxième point, c'est que en réalité, il y a une forme d'abandon, si vous voulez. Il y a une forme d'abandon de l'État, parce que on voit bien qu'il y a des quartiers qui sont de véritables no-go zones. Aujourd'hui, on le sait, il y a des quartiers dans lesquels bien l'État a abandonné toute notion d'autorité, où il y a des bandes qui sont des bandes armées, avec des armes de guerre, et qu'il faudrait réellement aller nettoyer de fond en comble ces quartiers pour retirer les armes qui s'y trouvent et les trafics de drogue. Et tout cela est extrêmement lié, et la réalité, c'est que si on le fait, demain, on a l'équivalent d'une guerre civile en France, et personne n'ose en réalité s'attaquer au problème.
Allez, ce matin, je voudrais évoquer également cette dramatique histoire qui a retenu notre attention. Ça se passe en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen. On va l'appeler Selim. C'est un monsieur qui a 86 ans et qui a dû se battre comme un dingue pendant 4 ans pour obtenir l'expulsion des occupants de son immeuble. Alors, il a récupéré, bien sûr, son immeuble, saccagé, totalement insalubre, avec des rats. Enfin, c'est dramatique. Mais cerise sur le gâteau, Veolia lui demande de régler une ardoise d'eau de 100 000 euros. Non seulement elle récupère son logement dans un état pathétique, pitoyable, 100 000 euros. Explication de Nicolas Vinclair, Sybille Delettre et Maureen Vidal. Ah, eh bien écoutez, on aura le sujet dans quelques instants. Avant de regarder le sujet, votre sentiment. On a le sentiment justement que la personne qui est victime est aujourd'hui responsable. Et ouais, ça, c'est terrible.
Ouais, la réalité sur le squat, c'est qu'il manque encore un arsenal juridique. Il n'est pas normal que l'eau ou que l'énergie consommée par des squatteurs soit aujourd'hui encore facturée aux propriétaires. C'est de ça dont il s'agit avec Veolia, hein, qui demande aujourd'hui près de 100 000 euros, 97 000 euros et quelques aux propriétaires. Il faut changer la loi sur cette question. Lorsque l'appartement est squatté, il devrait y avoir rupture de contrat automatique et que par la suite, le fournisseur d'énergie charge à lui de retrouver les squatteurs et d'obtenir paiement de cette manière. Et puis, vous savez, il y a 2 ans, le gouvernement a adopté une loi qui était censée mettre fin au squat, une loi anti-squat. On en avait beaucoup parlé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que cette loi n'est pas correctement appliquée et elle n'a rien changé. Elle est interprétée diversement. Il y a une méconnaissance des dispositions et il y a clairement une frilosité des préfets pour appliquer cette loi, pour renvoyer les dossiers devant la justice. C'est le cas en Seine-Saint-Denis, notamment, où le préfet est resté dans l'inaction. Donc moi, je le dis aujourd'hui à Gérald Darmanin, j'en appelle à Gérald Darmanin, c'est votre responsabilité. Hein, les préfets sont sous vous hiérarchiquement. C'est à vous de faire une note aux préfets pour leur demander d'appliquer correctement cette loi et de l'appliquer convenablement dans les délais les plus courts, parce que si vous ne le faites pas, eh bien vous serez jugé là aussi sur votre inaction. Gérald Darmanin, c'est un ministre qui est encore jeune, il a beaucoup d'ambition, les paroles ne suffiront pas, il a fait beaucoup de promesses cet été et au cours des derniers mois, il va falloir que les actes soient suivis des résultats. Donc Gérald Darmanin n'a pas le droit à l'erreur sur ce dossier.
Allez, je vous propose de regarder le reportage et puis on poursuit la discussion juste après.
Vous entendez les rats ?
Des rongeurs qui pullulent, un sol jonché de détritus et des infiltrations d'eau. Ce taudis, c'est le rêve d'une vie qui a viré au cauchemar. Après 4 ans de procédure, les squatteurs sont enfin expulsés en août dernier. Un soulagement de courte durée.
Entre-temps, au mois de mai, on a reçu une facture de Veolia qui nous réclame la somme de 97 000 euros pour une consommation d'eau.
Près de 100 000 euros de facture d'eau et aucune compensation. Les squatteurs condamnés à payer 400 euros chacun n'ont toujours pas donné un centime. Un choc énorme pour le propriétaire qui a du mal à en voir le bout.
Il est épuisé, il est fatigué et il a eu plus d'espoir. Donc quand il a reçu la lettre de Veolia, comme il dit lui-même, ça a été comme un tremblement de terre pour lui, il ne s'y attendait pas. Ça l'a beaucoup, beaucoup touché, surtout à son âge, 86 ans. Donc il espère que ça se finisse le plus vite.
Le père et son fils ont tenté une conciliation avec Veolia, restée sans réponse pour le moment. En attendant de trouver une solution définitive, l'immeuble a été muré et l'entrée renforcée pour éviter qu'il soit de nouveau squatté.
C'est terrible, Naïma M. Fadel, hein, lorsqu'on revoit ce reportage et cette personne de 86 ans, parce que, en fait, c'est toute une vie, ce sont des économies, etc. Et puis, en plus, la cerise sur le gâteau, c'est cette facture de 100 000 euros d'eau. On espère que Veolia va trouver une solution.
Oui, bon, enfin, espérons, oui. À moins qu'au niveau de la préfecture, il y ait peut-être un fonds, parce qu'il devrait y avoir un fonds, en tout cas, pour venir en aide à cette victime, parce qu'il faut rappeler que c'est une victime. Non seulement il a ses appartements qui ont été squattés, on n'a pas le droit de déloger, hein, parce qu'il y a tout un système juridique qui malheureusement aujourd'hui protège les délinquants, parce que c'est de la délinquance. Et puis en plus, il y a toute cette longueur pour pouvoir expulser. Enfin, je trouve que vraiment, c'est désespérant. J'ai autour de moi des personnes qui ont vécu ça, c'est désespérant, parce que vraiment, vous ne savez même plus quoi faire, parce que vous avez même le sentiment que la justice n'est pas de votre côté, mais qu'il est du côté de celui qui va squatter. Et si cette personne-là, en plus, elle squatte, il se trouve qu'elle a des enfants, vous ne pouvez rien faire. Et ça peut durer des années et des années. Donc c'est extrêmement désespérant. Et effectivement, je rejoins Louis, vraiment, il faut absolument qu'aujourd'hui, la justice soit vraiment du côté des victimes.
Très rapidement,
Oui, c'est l'inversion, c'est l'exemple même de l'inversion des valeurs qui touche notre pays. Le coupable se retrouve victime et la victime se retrouve coupable. Mais c'est quand même hallucinant. J'ai suivi l'actualité dernièrement. J'ai vu quelqu'un qui devait reloger les squatteurs pour retrouver son bien. Est-ce que vous vous rendez compte? Ou quelqu'un qui a été poursuivi par la justice parce qu'il a voulu récupérer son bien en mettant dehors les squatteurs? Mais on est où? Ici, il y a une inversion totale des valeurs. Moi, je pensais que la propriété privée était un droit inaliénable dans notre pays. Apparemment, ça ne l'est pas. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une rupture dans le pacte social quand on se retrouve dans ce genre de situation? Ça alimente le dégoût vis-à-vis de nos institutions. corruption vis-à-vis de la justice et plus globalement vis-à-vis de notre pays.
D'autant que c'est un véritable modèle d'intégration et de réussite sociale. Selim, en réalité, il a ouvert ce bar en 1966. 10 ans plus tard, il a pris l'initiative d'acquérir les murs, de devenir propriétaire. Donc il a réussi finalement à faire son petit bonhomme de chemin. Il a réussi à construire quelque chose. Et aujourd'hui, il ne peut pas bénéficier des fruits de son travail.
Allez, on va encore parler de crack ce matin. Ils manifestent aujourd'hui leur colère porte de Lévillette à Paris. Les riverains sont complètement délaissés depuis un an. Un an, oui, déjà que la préfecture a déplacé les toxicomanes qui occupaient auparavant, vous le savez, les jardins d'Éole dans le nord-est de la capitale. Sur place, la situation est délétère. Regardez ce reportage de Jeanne Cancard.
C'est la nuit et le jour, oui. Parce que moi-même, on ne pouvait plus y passer. Enfin, on y passait avec réticence.
Depuis quelques mois, cette habitante du 18e arrondissement de Paris revient dans le jardin d'Éole où les animaux ont remplacé les consommateurs de crack délogés il y a un an. À l'intérieur et aux alentours du parc, les riverains ont retrouvé un quotidien apaisé.
Moi, avant, c'était un cauchemar ici. J'avais envie de partir d'ici plus tôt possible. C'est mieux, plus mieux qu'avant. Avant, c'était vraiment tous des craqueurs dans le parc.
Mais à seulement 2 km plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack, porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
Ça coûte 10 euros, c'est même pas un gramme.
Sous emprise, des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en verre. Des réactions violentes, souvent provoquées par la prise de cette drogue ultra addictive. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
C'est pour me protéger le minimum. Souvent, les gens ils sont très violents. On a déjà eu des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent. Donc forcément, on a besoin de se protéger un peu.
Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés par le fléau.
Vous savez une chose, lorsque je regarde ce reportage à l'image, je me dis qu'on n'a pas fini d'en parler. Hein. On n'a pas trouvé les solutions. Hein.
Oui, et puis déplacer le problème, on ne le règle pas. Au contraire, on prend encore une fois en otage des riverains, des familles, des enfants, des personnes âgées, parce que j'ai vu dernièrement qu'il y a eu une agression contre une personne de 92 ans. Le problème, c'est qu'il faut absolument des lieux médicalisés. Il faut soigner ces personnes-là. La première prise, vous êtes addictif. Donc, il faut soigner ces gens-là. Mais les soigner, pas s'ils veulent bien. Il faut absolument les enfermer dans des lieux médicalisés pour les soigner. Il faut absolument expulser les dealers, parce que on sait très bien que ce sont des personnes dans une situation illégale, notamment qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Et il faut absolument, si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Alors j'ai appris qu'il va y avoir une réunion en octobre entre le préfet et les élus. J'espère que la région Île-de-France va être aussi associée.
On va marquer une première pause de publicité dans ce Midnews Weekend. Et vous l'avez évoqué, on revient juste après la pub. On parlera justement de cette violente agression de ce monsieur de 92 ans. Vous êtes bien sur CNews. À tout de suite. Quasiment 12h30, c'est Midi News Weekend. On est ensemble jusqu'à 14h. Avec moi ce matin, Naïma Mfadel, essayiste, Kevin Bossuet, professeur d'histoire, et Louis Morin, journaliste, et évidemment notre ami Harold Iman, spécialiste des questions internationales. On débat, on décrypte, mais tout de suite, place à l'info avec Alexis Vallée.
Téhéran toujours en crise, de nouvelles manifestations ont eu lieu en Iran après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. La répression a fait 17 morts selon les autorités, au moins 35 selon l'ONG Irana Human Rights. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et vérifiées montrent un homme en uniforme militaire tiré en direction de manifestants. Le Canada se prépare à l'impact historique de l'ouragan Fiona. Portant des vents soutenus jusqu'à 195 km/h, son passage a déjà fait des désastres dans les Antilles. Dans l'est du Canada, les autorités de la province de Nouvelle-Écosse ont émis une alerte aux coupures de courant. Ils ont demandé aux habitants de rester à l'intérieur et d'avoir suffisamment de provisions pour au moins 72 heures. Et puis, hausse des expulsions de clandestins, plus 20% entre janvier et août 2022 par rapport à l'année précédente. Depuis le début de l'année, le ministère de l'Intérieur a enregistré 12 708 sorties du territoire contre 10 574 en 2021. Le gouvernement penche d'ailleurs vers un durcissement de la loi. Au programme de la loi immigration, faciliter les expulsions, refondre le droit d'asile et faciliter l'intégration.
Merci beaucoup, cher Alexis Vallée. Allez, je voudrais que l'on revienne sur cette affaire dont vous nous parliez juste avant la pause publicitaire, ma chère Naïma, sur cette autre violente agression d'un homme de 92 ans. Je dis bien 92 ans, cela s'est passé dans le 19e arrondissement à Paris. Il a été agressé par un toxicomane. Je propose d'écouter la réaction de Jean-Christophe Couvi de l'unité SGP et on en parle juste après.
On a retrouvé cet agresseur grâce à la vidéosurveillance. Et oui, encore la fameuse vidéosurveillance, comme quoi elle est très utile malgré tous les détracteurs. Et puis nos collègues ont fait une grosse opération deux jours après. Et donc ils ont recoupé, ils ont retrouvé cet individu, ils l'ont arrêté, ils l'ont interpellé et la personne a été déférée. Et ils sont prêts à taper et presque tuer un individu qui a 90 ans, une personne, un grand-père, qui pourrait être leur grand-père, tout ça pour récupérer 10, 20, 30 euros. Donc voilà, c'est vraiment dramatique d'en arriver là et cette drogue est un fléau.
On évoquait tout à l'heure les drames du crack et on voit une personne de 92 ans agressée. Il n'y a plus d'élite, Kevin Bossuet.
Ça ne m'étonne absolument pas. Moi, des toxicomanes, j'en rencontre régulièrement pour prendre notamment le tramway T3B ou pour prendre la ligne 7. On voit des gens arriver dans les wagons en nous agressant, en nous demandant de l'argent. Parfois, j'en ai vu se shooter en plein milieu de la rame. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Et ils sont de plus en plus agressifs. Les gamins ont peur. Et quand on demande à la RATP, on leur demande un peu plus de sécurité, ils nous racontent que ce n'est pas de leur fait et que si nous ne sommes pas contents, ben il faut prendre un autre trajet. Mais c'est juste incroyable, c'est juste insoutenable. Et de manière plus générale, on sent là qu'on est dans une forme d'ensauvagement où maintenant on s'en prend à n'importe qui, on s'en prend à des petits-enfants, on s'en prend à des vieillards sans défense et la France est devenue le Far West où les gens sont obligés de subir et le jour où ils se rebellent, on leur raconte que ce sont d'affreux fascistes ou on leur raconte que finalement on ne peut plus rien pour eux. Mais quel désastre.
Et lorsque j'évoquais en début d'émission ce fameux sondage qui nous place très très loin, on voit bien toutes ces affaires. C'est le reflet, c'est la conséquence de tout ça, Naïma Mfadel.
Et puis la vision que ça donne. Moi, je pense que vraiment, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la seule solution, c'est d'enfermer ces gens-là pour les soigner. On ne peut pas les garder
dehors.
Comme ça. Oui, mais les mettre dehors...
Il y en a qui n'ont rien à faire sur le territoire français.
C'est si effectivement ils sont dans une situation illégale, en attendant, il faut protéger les citoyens bien au quotidien. Sûr. Donc il faut bien trouver des lieux pour emmener ces gens-là, parce que c'est sans fin en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi non-assistance à personne en danger au niveau des mineurs. Bien sûr, tous ne sont pas mineurs. Il y en a qui se proclament mineurs pour pouvoir bénéficier de l'accueil en France et de la prise en charge. Mais vous avez aussi des mineurs. Vous avez aujourd'hui des mineurs de 12, 13, 14 ans qui sont aussi enrôlés dans tous les trafics liés au crack, à qui on donne d'ailleurs la première prise pour qu'ils soient addictifs et qu'ils puissent travailler pour ces dealers. Donc la seule solution, à un moment, il faut arrêter, c'est d'emmener ces gens-là, de les enfermer dans des lieux effectivement clos, loin des riverains, pour effectivement les soigner.
Je voudrais évoquer également ce matin cet incroyable déchaînement de violence encore. Je vous donnerai la parole juste après. Louis Morin, subi par un lycéen de 15 ans. Ça se passe là, cette fois, dans le Val-d'Oise, à Jouy-le-Moutier. L'agression a été d'une violence sans nom. Elle aurait pu même lui laisser des terribles séquelles. Ça s'est passé mardi midi. La vidéo, elle est accablante. Elle a circulé sur les réseaux sociaux. Évidemment, on ne va pas vous la montrer. Je vous propose d'écouter la réaction d'Alexandre Puyot, qui est conseiller départemental du Val-d'Oise. Et on en parle juste après.
Il y a une vraie prise de conscience que c'est un incident extrêmement grave et qu'il ne faut absolument pas que ça se reproduise. Et tous les niveaux de la chaîne de responsabilité sont aujourd'hui alertés. C'est un incident regrettable, mais c'est vrai que c'est pas l'image de Jules Moutier et de Sergi Pontoise. Il y a des incidents, hein, on est une grande ville de banlieue, on ne va pas se mentir. Mais ces incidents-là sont extrêmement rares de cette violence-là. Et c'est vraiment dommage que... qui est pas quand même... Il y a une partie de la jeunesse qui est en train de perdre pied là, à ce niveau-là.
Vous avez le sentiment, effectivement, qu'une partie de la jeunesse est en train de perdre pied, Louis Morin ?
Comment pourrait-on dire le contraire ? Alors, effectivement, là, on n'a pas vu les images, mais moi, je les ai regardées.
Oui, c'est terrible. Hein.
Atroce, c'est des images, mais...
C'est incroyable.
L'inhumanité est absolue, absolue. C'est vraiment, c'est l'ensauvagement. Et se dire que des mineurs, puisqu'il s'agit de deux mineurs qui ont été interpellés, de 14 et 15 ans, peuvent se laisser aller à de tels comportements. En réalité, d'ailleurs, c'est assez surprenant qu'il n'y ait que deux mineurs qui ont été interpellés.
Parce qu'ils sont nombreux, là. Hein. On voit une photo floutée, mais il y a du monde. Hein. Ils sont pas que deux. Hein.
Ah oui, ils sont une petite dizaine, clairement, à le frapper au sol, en groupe, en réunion, comme on dit. Et la victime est finalement un enfant de 14 ans. Un jeune enfant de 14 ans qui a eu 5 jours d'ITT, mais qui va être traumatisé à vie par les événements qu'il vient de subir. Je pense que là aussi, il est urgent de réagir, de réformer la justice des mineurs de manière à réellement avoir une justice dissuasive. Parce que la réalité, c'est qu'ils savent très bien qu'en faisant ça, eh bien, ils ne risquent rien par la suite.
Alors, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur beaucoup à Naïm Fadel. Elle va parler de l'éducation, des parents, etc. Parce que là, effectivement, il n'y a plus de limite.
On a d'ailleurs fait une tribune avec Dr Maurice Berger et David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. Docteur Maurice Berger en parle de la violence des jeunes. Il les a rencontrés dans centres, notamment d'éducation fermée, en centre renforcé. Il dit qu'ils n'ont pas conscience de cette violence. Je vais vous citer un exemple. Il parle à un jeune qui a tué un autre jeune en le tabassant. Et il dit au jeune, vous vous rendez compte de la tristesse de la maman. Il lui dit, avec le temps, elle oubliera. C'est terrible.
Il y a une perte de valeur totale.
Moi, je voudrais citer, rendre hommage vraiment à l'Association des mères combattantes, à Nathalie Biranto, qui a créé cette association pour venir en aide à tous les parents dont les enfants ont été tués lors de risques ou lors de lâchages comme celui-ci. Et cette femme extraordinaire, son fils a été tué lors d'une risque entre bandes.
Donc je voudrais Kevin Bossuet, vous êtes enseignant, vous les côtoyez, ces jeunes.
Bien sûr.
Vous la sentez, cette dérive? Vous l'expliquez c'est quoi? C'est les réseaux sociaux? On fait n'importe quoi? C'est une espèce de challenge? Parce qu'effectivement, Louis parlait de la violence de ces images. Et mon Dieu, qu'elles sont violentes. Enfin, c'est quand même dingue. C'est surréaliste quand on les regarde.
Je pense qu'il y a plusieurs clés d'explication. Tout d'abord, il y a le rôle des parents. Il y a une forme parfois de démission parentale. Moi, quand je vois ce genre de choses, j'ai envie de dire, mais qu'ont fait les parents? Quelle est l'éducation des parents? Est-ce que les parents étaient présents ou pas? Ce n'est pas normal qu'un mineur agisse de cette manière. Et moi, je suis désolé. Si les parents n'ont pas joué leur rôle, il faut les sanctionner et leur retirer, par exemple, les aides sociales. Dans un pays civilisé, on a certes des droits, mais on a aussi des devoirs. Si on ne respecte pas ses devoirs, on n'a plus ses droits. Il y a une deuxième clé d'explication, je pense que c'est le monde, c'est l'individualisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une absence totale d'empathie où c'est le j'ai droit, c'est l'ego surdimensionné où finalement il n'y a plus que moi qui existe et l'autre n'a plus aucune importance. Et dernière chose, c'est le monde de la virtualité et ça je le vois de plus en plus. C'est-à-dire que les jeunes sont omnubilés par leur téléphone portable, sont omnubilés, absorbés par les jeux vidéo et quand ils se retrouvent dans une situation réelle, ils ne savent plus vraiment s'ils sont dans le virtuel ou s'ils sont dans le réel. Et quand ils se mettent à frapper, à insulter, souvent ils sont dans leur tête encore dans le monde virtuel alors qu'ils sont dans le monde réel. Et quand on les interroge, ils disent « je n'ai pas eu conscience de ce que je faisais. Et le problème, c'est qu'ils sont sincères. Donc je pense que c'est ces trois clés d'explication, mais surtout, c'est l'éducation parentale qu'il faut remettre à l'honneur, parce que moi, en tant qu'enseignant, j'en ai marre, en effet, de voir des parents qui ne viennent jamais quand leurs enfants font quelque chose de mal. Le seul moment où on les voit, c'est pour aller chercher le papier pour remplir la bourse.
Louis Morin, un mot encore sur cette dramatique
histoire. Oui, moi je ne partage pas le constat de Kevin Bossuet sur la sincérité présumée des agresseurs, notamment sur leur absence de conscience. Moi je pense qu'ils ont conscience qu'ils font du mal. Ils le savent très bien qu'ils font du mal, et que c'est leur volonté même. Parce que, non seulement effectivement ils n'ont pas les repères, ils n'ont pas eu l'éducation, mais en plus parce que au fond d'eux-mêmes, ils ont la volonté de faire mal à autrui. Voilà. Je pense que ça s'est développé. Malheureusement, c'est une réalité. On a un ensauvagement avec cette volonté de faire du mal par sadisme pur chez une partie, de nos élèves, de nos enfants, des enfants de la France. Et c'est la réalité à laquelle on est confronté. Aujourd'hui, toute la
C'est ça qui est déroutant, en fait.
Bien sûr.
Ce que dit d'ailleurs le docteur Maurice Bertrand.
Parce que c'est devenu un amusement. C'est devenu un divertissement.
Et c'est vrai que la place de l'adulte qu'on avait auparavant, elle n'est plus. Vous prenez dans les quartiers, la place de l'adulte, elle est absente. Donc il y a aussi ces phénomènes de bande, culture de quartier, de culture de on va régler nos comptes nous-mêmes. Et dans les RICS, en fait, il y a aussi toute une organisation dans les villes, de quartier en sous-quartier. D'ailleurs, vous avez vu que il y a les maires de l'Essonne qui vont organiser une colo pour emmener des jeunes de différents quartiers parce qu'ils en ont marre des RICS interquartiers. Donc ça pose aussi la question du premier magistrat d'une ville, comment il organise sa ville pour qu'il y ait une unité. Il y a des centres de loisirs par quartier, des centres sociaux par quartier, des terrains de foot par quartier. Donc là, on voit bien qu'on arrive aussi au bout de quelque chose.
Un dernier mot, Kevin, parce qu'ensuite, on va prendre la direction de l'Ukraine.
J'aimerais répondre à Louis. Je suis d'accord en partie par rapport à ce qu'il a dit. Évidemment qu'il y a des adolescents qui ont envie de faire mal, qui ont envie de briser, qui ont envie de détruire l'autre. C'est vrai. Mais il y a une telle aussi banalisation de la violence. Les jeunes vivent tellement dans une atmosphère violente qu'ils n'ont plus conscience, finalement, d'être violents. Et sincèrement, quand je vois, moi j'ai 150 adolescents tous les jours en face de moi, donc c'est un magnifique laboratoire. Il y a des gamins qui se mettent à frapper d'autres gamins. Pour eux, ce n'était qu'un jeu. Ce n'est pas pour excuser ce qu'ils ont fait. Pour eux, c'était vraiment un jeu. Ils n'ont pas conscience des conséquences de leurs actes et des conséquences potentielles de leurs actes. Vraiment, je pense qu'il y a les deux.
Allez, on va prendre la direction de l'Ukraine avec vous, Harold Iman. Vous êtes effectivement, je le disais, notre spécialiste des questions internationales. Les habitants des régions ukrainiennes occupées par l'armée russe sont appelés aux urnes dans un référendum de rattachement à la Russie. Je propose de regarder le sujet de Maureen Vidal et on en parle juste après.
Pas d'isoloir, pas d'enveloppe. À Mariupol, les votes se font à la vue de tous. Dans l'oblast de Donetsk, les citoyens font la queue en bas de leur habitation pour voter le référendum d'annexion à la Russie jusqu'à lundi. Une organisation menée par l'instance électorale par souci de sécurité. Tout ira bien avec l'aide de Dieu. Tout le monde reviendra. Nous allons reconstruire notre ville. Parallèlement en Russie, de nombreuses personnes fuient le pays en direction de la Turquie, la Géorgie ou encore la Finlande, suite au discours de Vladimir Poutine annonçant une mobilisation partielle en Russie.
Quand Poutine a prononcé son discours, j'ai fait mon sac et je suis directement parti en Finlande. En Russie, nous n'avons pas de billets d'avion pour le moment. J'ai donc un visa Schengen et j'ai trouvé un vol pas cher d'Helsinki à Istanbul.
J'étais effrayé et j'ai cherché toutes les possibilités pour fuir.
En Europe, la question est délicate, pour ou contre accueillir les réfugiés. Une réunion d'urgence des ambassadeurs des 27 est prévue lundi à Bruxelles.
Bon, Harold et Iman, expliquez-nous tout. C'est une parodie, ce référendum, là, pas d'isoloir. Enfin bon, c'est d'une limpidité absolue.
Ça ne s'arrête pas là. Déjà, on est en situation de guerre dans certaines franges de la zone. Donc là, personne ne va voter du tout. Vous voyez le Donbass, ces deux oblasts, ces deux districts de Lugansk et de Donetsk qui doivent voter. Et toute la partie qui n'est pas violette n'est pas contrôlée. Donc tout ce monde-là ne votera pas. Ensuite, vous avez 800 000 réfugiés de ces zones de l'Est et du Sud qui sont en Russie. Et eux, on va les obliger à voter. Et ceux qui sont en Ukraine, proprement dites, dans l'autre sens, qui sont entre 1 et 2 millions, ne pourront pas voter. Donc déjà ça invalide tout. Et puis ensuite, il n'y a pas d'observateurs de pays tiers, il n'y a pas de campagne référendaire du tout. Donc on ne peut pas dire que c'est un référendum normal. Par contre, il y a aussi la question du pourquoi. C'est pour, évidemment, que ces zones deviennent territoires souverains russes et que donc ce soit l'Ukraine qui agresse. Et comme l'Ukraine est en train d'avancer en ce moment, vous voyez la tache
bien sur les cartes, ouais.
Verte. Ils ont pénétré là au sud d'Izium. Ils avancent et pour les stopper, c'est encore un moyen. On pourra lever les troupes tout de suite, localement, dans ces districts où on a voté ce malheureux référendum.
Kevin Bossuet.
Oui, enfin, faire des référendums alors que la guerre n'est même pas terminée n'a aucun sens. Et en faisant ce genre de choses, il va encore un peu plus s'isoler sur la scène internationale. On a vu notamment le dirigeant chinois qui appelle quand même à un cessez-le-feu, le premier ministre indien qui nous raconte que l'heure n'est pas à la guerre, ou même la Corée du Nord qui a affirmé notamment qu'elle ne viendrait jamais en aide à Vladimir Poutine sur le plan militaire. Et enfin, la Turquie, qui avait jusque-là ménagé le chèvre et le chou, et qui est là, qui nous raconte que finalement, elle veut interdire le système bancaire MIR sur son territoire, c'est-à-dire interdire aux Russes en Turquie d'utiliser leur carte bancaire. La vérité, c'est qu'on a un Vladimir Poutine à l'agonie, qui s'isole de plus en plus avec une partie de sa population qui conteste cette politique-là, parce que quand on a retrouvé des lettres de soldats russes qui racontent que pour eux, cette guerre n'a aucun sens. Donc ils ont plus l'impression de se sacrifier pour un homme plutôt que pour des valeurs et pour un pays.
Louis Morin, deux mots rapidement.
Oui, non, il y a la question de la temporalité. À l'heure où justement, eh bien, il sonne une mobilisation partielle, il organise ses référendums, et ce, dans les premiers jours de l'automne, alors qu'on sait très bien qu'il est aussi maître du jeu, malheureusement, sur un certain nombre de questions énergétiques qu'on va avoir à endurer dans les prochains mois. Hein, on sait très bien qu'avec la coupure de gaz, eh bien, l'Europe entière risque de tomber dans une récession face à la pénurie. On risque d'avoir froid. Et face à cela, eh bien, Poutine, malgré tout, reste en position de force. Donc il organise ce référendum aujourd'hui parce qu'il sait aussi que malheureusement, les prochaines semaines, sur ces questions-là, sur ces points-là, eh bien, lui permettra d'avoir le dessus.
Allez, on va terminer par un dernier sujet spécialement pour Kevin Bossuet. En tant qu'enseignant, on en revient en France avec ce hashtag « On veut des profs, on veut des profs ». Des dizaines de parents d'élèves ont décidé de former un collectif et d'attaquer l'État parce que l'éducation nationale se montre défaillante. Je vous propose d'écouter l'avocat de ce collectif de parents d'élèves, Maître Louis Lefoyer de Costil. C'est un sujet pour vous, Kevin Bossuet, je crois.
On n'est pas juste sur un problème de sous, on est aussi sur un problème, en fait, de faute et de manquement à une obligation de l'État qui est celle d'assurer l'enseignement public. Donc on n'est pas juste sur un problème, enfin on est sur une carence de l'État qui est quand même caractérisée. Et c'est pour ça que comme il y a vraiment une faute de l'État, on peut engager sa responsabilité. Donc ça peut paraître un peu absurde, mais en vérité c'est simplement faire valoir les droits des parents et obtenir réparation, même si c'est symbolique, d'un préjudice qui est loin d'être symbolique. À la fois pour les parents, pour les enseignants et j'en viens même pour l'institution, pour l'école publique en général.
Alors on veut des profs. Kevin Bossuet, on ne nous avait pas dit qu'il devait y avoir des profs devant chaque salle de classe au cours de cet été. Il me semble l'avoir évoqué. Il me semble, hein, peut-être que j'oublie, il me semble.
Mais il y a eu des recrutements. La vérité, c'est que l'éducation nationale a fait son travail. Il y a des collègues, des enseignants qui ont été nommés, mais le problème c'est qu'ils ne viennent pas prendre leur poste. C'est pour ça qu'à certains endroits, on se retrouve avec un déficit de professeurs. Et de manière plus générale, la question est laquelle ? C'est la rémunération des enseignants. À partir du moment où vous sous-payez les enseignants, mais les enseignants, les étudiants les plus brillants, ceux qui sont les plus motivés, ceux qui sont attachés à la valeur travail, évidemment que ces étudiants-là vont aller dans le privé. Et moi, la question que je me pose aussi, on veut des profs, mais on veut quels profs ? Parce que moi, j'aimerais bien aussi que dans le recrutement des professeurs, il y ait véritablement une attention particulière faite aux valeurs que portent les futurs enseignants et notamment aux valeurs républicaines. Parce que parfois, je vois débouler certains enseignants et je me pose des questions quant à leur sincérité vis-à-vis des valeurs de la République. Donc, il faut davantage recruter, d'accord, mais il faut aussi qualitativement mieux recruter.
Alors, je regardais ça, c'est 79 000 heures de cours qui ont été perdues au cours de l'année scolaire et réclament 10 euros par heure et par enfant dans le secondaire, 50 euros par heure et par enfant dans le primaire. On n'est pas très bien dans l'éducation nationale.
Il y a clairement un manque de moyens au quotidien. En Seine-Saint-Denis, à Bagnolet, rendez-vous compte, il est demandé à chaque parent d'élève d'arriver avec une ramette de papier au début d'année pour les photocopies.
Oui, j'ai vu ça, oui.
Pour les photocopies qui sont faites et qui sont remises aux élèves pendant l'année. Ils n'ont même plus l'argent dans les écoles d'acheter des stocks de papier en quantité suffisante pour les photocopies qui sont données aux élèves. Mais qu'on soit bien clair, en matière éducative, c'est plus un problème d'attribution des moyens qu'un manque de moyens en soi, puisque la France est dans la moyenne de l'OCDE par rapport aux dépenses publiques pour chaque élève. Donc après tout, il y a d'autres pays dans l'OCDE qui se débrouillent très bien avec les mêmes moyens. Et effectivement, en France, on voit bien que ça ne marche pas. Il y a la question financière, effectivement, des salaires des enseignants. Et ça, c'est une question, en fait, c'est la loi du marché, c'est l'offre et la demande. Hein, ça fait des années qu'il n'y avait pas eu de revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Il y en avait une pour la dernière fois en 2017, en 2016, et avant, ça avait aussi été gelé depuis 2010. Et donc, forcément, face à l'inflation, vous avez un pouvoir d'achat qui diminue. Hein, lorsque vous avez de l'inflation et pas de revalorisation, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les salaires ne sont plus attractifs dans l'éducation nationale. C'est une réalité. Et puis, dans le même temps, il y a le manque, l'absence de reconnaissance sociale du métier d'enseignant, parce que l'enseignant n'est plus respecté en tant que tel. C'est un autre problème, mais c'est un problème réel qui dissuade une bonne partie nos étudiants de poursuivre ensuite et de partir dans la perspective d'enseigner pour le reste de leur carrière.
Louis Morin, merci. Fin de cette première partie de Mini-News The Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je vous libère, Louis. Hein. Vous m'avez accompagné depuis ce matin. Merci mille fois. C'était toujours aussi passionnant de vous écouter. Naïma, vous restez avec moi. Kevin,
avec plaisir
aussi. Et Harold, on se retrouve parce que dans quelques instants, juste après la pause publicitaire, le grand journal de Mini-News Weekend. A tout de suite. Vous êtes bien sûr CNews. Vous êtes bien sur CNews, il est 13h, dernière partie, dernière ligne droite de Mini-News Weekend avec tout de suite le journal jusqu'à 14h avec les titres. On va commencer ce journal par un classement qui fait mal, même très mal pour nous Français en termes d'insécurité. Selon le dernier classement mondial réalisé par Nombeo et publié par le Figaro, la France serait, je dis bien serait aujourd'hui plus dangereuse que le Mexique. On vous dit tout dans ce journal. On va reparler du crack à Paris avec le ras-le-bol des habitants de la Porte de la Villette. Ils manifestent aujourd'hui leur ras-le-bol. Notre reportage édifiant avec un drôle de cocktail, crack, agression et prostitution. Autre affaire qui a retenu notre intérêt ce matin, quand la loi défend davantage les squatteurs que les propriétaire. Un propriétaire de 86 ans a récupéré enfin son logement après une longue procédure. Il a récupéré un véritable taudis, cadeau. Veolia lui demande de payer tout simplement la facture d'eau, 100 000 euros. Enfin, on prendra la direction de l'Ukraine avec l'organisation d'un référendum dans les régions ukrainiennes occupées par la Russie. Harold Iman, notre spécialiste en relations internationales, nous dira tout sur ce référendum. Voilà, soyez bienvenus. Toujours avec moi depuis ce matin, Naïma M. Fadel, essayiste, ravi de vous accueillir. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, en pleine forme ce matin.
Toujours.
Et j'accueille avec beaucoup de plaisir et un véritable bonheur Marion Pariset, spécialiste en politique publique. Et notre ami Denis Deschamps, conférencier en géopolitique. Soyez les bienvenus à tous les deux.
Merci.
On va donc commencer avec ce classement, je dirais, accablant. Accablant pour l'image de la France en termes d'insécurité. Je vais vous parler de ce classement mondial Numbeo que j'évoquais dans les titres publiés par nos confrères du Figaro. Comment les touristes perçoivent la France. Le résultat est sans appel pour les grandes îles françaises. Regardez ce sujet d'Alicane et on en parle évidemment ensuite.
La France, en bas du tableau, dans le classement des pays les plus sûrs au monde. Classé 27e sur 29, l'Hexagone se situe derrière la Turquie, le Pakistan ou encore le Mexique, et trouve sa place devant le Brésil et l'Afrique du Sud, qui occupent les deux dernières places du classement. Une situation qui interroge.
Ce n'est pas un classement qui s'appuie sur des chiffres, c'est quelque chose qui demande aux touristes, dans les villes soi-disant les plus sûres du monde ou les plus fréquentées par des touristes, s'ils se sentent oui ou non en insécurité. C'est intéressant parce que ça ne mesure pas nécessairement la réalité des choses, mais la manière dont elle est perçue.
Sur 12 villes françaises présentes dans le classement, seulement Strasbourg se trouve dans le top 200, en occupant la 166e place sur un total de 453 villes classées dans le monde. Loin derrière Abu Dhabi, Saint-Sébastien ou encore la ville de Québec. De son côté, Nantes est la mauvaise élève, se situant à la 407e place. Face à l'insécurité, les Nantais sont en colère.
Trois fois en six mois, on a essayé de me voler mon portable, dont deux fois deux jours de suite.
Devant chez vous quasiment ?
Devant chez moi exactement. Je déménage. J'ai fait un burn-out cet hiver parce que c'était trop.
Enfin, au niveau européen, les villes françaises s'enfoncent plus vite que les autres villes d'Europe.
Alors Marion Parizet, est-ce que ce classement de la France, juste, je le disais, catastrophique, vous étonne, vous surprend ou finalement vous y attendiez ?
Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi bas. Mais
là, on est bas. Hein.
Que là, ce que ça nous dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on critique souvent le fait qu'on montre beaucoup d'images négatives, notamment dans les médias, qu'on pourrait avoir tendance à faire du sensationnalisme sur des faits divers, d'agressions, et qu'il y aurait, soi-disant, un sentiment d'insécurité qui ne serait pas relié à des actes réels. Or, les touristes, quand ils viennent à Paris, ce ne sont pas eux qui regardent les chaînes d'infos en continu dans une langue étrangère, donc ils ne savent pas forcément ce qui est renvoyé comme image. Ce qu'ils ont, c'est leur perception réelle, c'est-à-dire quand ils se promènent dans les rues, qu'est-ce qu'ils vivent. Et donc, ça nous dit peut-être encore plus, ça nous confirme que derrière, ce n'est pas juste une perception des Français qui serait accentuée par les réseaux sociaux ou autres, mais c'est réellement quelque chose qui se sent au jour le jour dans la rue et qui doit donc être pris en compte, parce qu'on ne peut pas avoir un pays qui se veut, qui va accueillir les Jeux Olympiques dans deux ans, et qui est aujourd'hui...
Très bonne publicité, justement, les JO.
Et qui aujourd'hui est aussi bas dans les listes en termes de sécurité. C'est complètement affolant. On va être la vitrine, enfin Paris va être la vitrine de la France à cette occasion-là, et on va être aussi incapable d'assurer la sécurité de milliers, voire de millions de personnes qui vont affluer pour ces cérémonies. Non, ça me paraît complètement aberrant. Ça appelle à un réveil, je pense, des autorités pour pouvoir justement faire quelque chose.
Denis Deschamps, on est juste derrière le Mexique, hein. Et le Mexique n'avait pas la réputation d'être le pays le plus sûr du monde.
Juste à côté du Brésil également, où l'insécurité est en train d'exploser depuis 4 ou 5 ans. Moi, je trouve ça totalement navrant parce qu'en fait, ça va mettre en péril notre génie français. On parlait des JO de 24. On va avoir plein de trucs absolument fantastiques avec peut-être le course du 100 mètres sur la Seine avec des scénographies magnifiques. Et en fait, en parallèle de cela, on va mettre en danger l'image de la France. Ça me fait penser en miroir à la situation de PISA, du classement des écoles, hein, où en fait, à chaque fois, on se gargarise d'avoir la meilleure école du monde. C'est faux. On avait la meilleure école du monde il y a 40 ans et à force de délitement et de petites compromissions avec certains syndicats, on a effondré notre école. C'est concret, ça. Et là, on le voit bien, on l'a vu cet été, nos policiers sont des pompiers. Donc en fait, on est en bout de chaîne dans l'effet de la conséquence. Là, la cause, il faut la travailler en amont. Là, c'est la conséquence. Et c'est factuel. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il n'y a pas que les touristes, il y a aussi les Français. C'était le sujet de la présidentielle. Donc combien de temps il va falloir appuyer auprès des pouvoirs publics pour dire « là, il y a un vrai sujet ». Vous avez bien vu aussi le squat et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie de l'insécurité. La dame qui a failli se faire voler deux fois son portable en deux jours, ça c'est concret. Et donc malheureusement, il n'y a pas de décision sur le temps long pour arrêter ce phénomène-là. Et là, on est dans la conséquence et c'est absolument dramatique.
Mais en fait, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, en fait, ça a été complètement évacué lors des présidentielles. Le président de la République ne voulait absolument pas l'aborder.
Il ne l'a pas abordé le 14 juillet au cours de son intervention.
Il n'a pas voulu. D'ailleurs, tout a été assez kafkaïen cette présidentielle, parce qu'on n'a pas abordé ce qui touche les Français au quotidien. Oui. Vous avez raison, l'école. Oui. En fait, on a eu le sentiment qu'il ne voulait pas être connecté à la réalité que vivaient les Français et surtout pas aborder cette réalité et ce qui fâchait. Parce que vous venez de parler de l'école, de la sécurité, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Donc quand Dupond-Moretti, le ministre, nous avait dit non, Il n'y a pas cette réalité, c'est juste un sentiment. Vous vous rendez compte la gifle qu'il met aux Français ?
Bien sûr. Allez, autre illustration de cette insécurité justement dont on parle. Je voulais vous parler également de cet incroyable déchaînement de violence subi par un lycéen de 15 ans dans le Val d'Oise à Jouy-le-Moutier. L'agression a été d'une violence sans nom. Elle aurait pu lui laisser vraiment beaucoup de séquelles. La vidéo est juste accablante. Lorsque vous la regardez, c'est juste pas possible, c'est insoutenable. Je vous propose d'écouter la réaction d'Alexandre Puyot, qui est conseiller départemental du Val d'Oise.
Il y a une vraie prise de conscience que c'est un incident extrêmement grave et qu'il ne faut absolument pas que ça se reproduise. Et tous les niveaux de la chaîne de responsabilité sont aujourd'hui alertés. C'est un incident regrettable, mais c'est vrai que c'est pas l'image de Jules Moutier et de Sergi Pontoise. Il y a des incidents, hein, on est une grande ville de banlieue, on ne va pas se mentir. Mais ces incidents-là sont extrêmement rares de cette violence-là. Et c'est vraiment dommage que... qui est pas quand même... Il y a une partie de la jeunesse qui est en train de perdre pied là, à ce niveau-là.
Marion Parizet, c'est encore, je le disais, hein, ces images, lorsqu'on les regarde, sont juste indiffusables, évidemment. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
On peut que être choqué par ce qui se passe, mais il faut voir comment on agit sur ces phénomènes-là, comment on agit en amont pour pouvoir justement aussi les prévenir. Parce que malheureusement, on est quasiment sur un phénomène de risque. Au final, des informations qu'on a, il y aurait aussi une opposition entre différents groupes de jeunes. Et ces risques, c'est un phénomène qui s'est énormément développé depuis le Covid, avec des élèves qui ont décroché totalement, qui n'ont plus fait de sport, qui n'ont plus fait d'activité, qui se sont retrouvés dans cette manière-là d'exister finalement entre quartiers. Et il y a beaucoup de choses à faire sur la prévention en amont, c'est-à-dire comment faire se parler les jeunes de différents quartiers, comment être capable d'avoir des profs, des enseignants, des éducateurs, des médiateurs aussi qui arrivent à anticiper cela, mais derrière être capable d'alerter, parce que ça peut se dérouler très vite. On voit un déchaînement de violence tel, il suffit de 5 minutes pour vraiment réduire la vie de quelqu'un quasiment à néant. On peut même se poser la question, est-ce qu'on ne qualifierait pas ça de quasiment volonté d'homicide? Quand on tape la tête de quelqu'un à coup de pied en prenant un élan, on ne peut pas dire qu'on essaye juste de faire mal, ça n'est pas possible.
Kevin Bossuet.
Non mais la prévention, moi je veux bien la prévention, mais ce qu'on veut c'est des sanctions, parce qu'il y a un sentiment d'impunité qui est incroyable. Parfois ces gamins sont arrêtés par la police, ils ressortent quelques heures plus tard sans rien du tout. C'est notre justice qui est laxiste, c'est notre État qui est laxiste qui explique cela. Et quand j'entends la gauche qui nous raconte tout le temps, c'est un simple fait divers. Mais il y a quand même beaucoup de faits divers dans notre pays. La vérité c'est qu'il y a une violence gratuite qui ne cesse de monter, une hyperviolence qui n'a de cesse de monter, et surtout une envie de détruire l'autre. Parce que parfois, à travers les actes violents, on veut s'en prendre à un individu pour ce qu'il est. Moi, je vois par exemple en Seine-Saint-Denis la montée du racisme anti-blanc. Je vois la montée de l'antisémitisme. Donc quand j'entends la gauche qui nous raconte qu'il faut lutter contre l'antisémitisme et qui finalement refuse de voir la réalité en face, c'est-à-dire des jeunes qui s'en prennent à d'autres parce qu'ils sont juifs, je me dis qu'on a affaire à la gauche la plus bête du monde. Donc des sanctions, voilà. C'est ce qu'on réclame et c'est ce que réclament les Français.
Là, effectivement, un problème de justice, la justice des mineurs notamment, et donc c'est l'impunité. Et effectivement, ça commence déjà très tôt. Ces gamins-là, quand ils arrivent à 20, 22 ans, comment faire pour revenir en arrière? Je voudrais juste rappeler que le ministre Chevènement, en 1999, avait parlé des sauvageons. Oui. Et rappelez-vous comment la gauche lui est tombée dessus.
Ah oui, ça fait du oui à l'époque. Hein.
Ses amis de la gauche.
Ses amis de la gauche, en plus, lui était tombé dessus. Alors vous imaginez si à ce moment-là, on avait conscience. Mais malheureusement,
Mais vous avez raison. En fait, c'est ce dont on discutait plein de fois sur ce plateau. C'est le délitement des services publics et, en fait, des très grands services publics. Et avec Kevin, on a déjà parlé sur ce plateau à multiples reprises. La justice, si on a transféré dans la démocratie le pouvoir de se faire justice soi-même à l'État. Et malheureusement, comme il n'y a pas de sanctions, il n'y a que la sanction lourde possible pour arrêter l'élan de cette hyperviolence qui se développe avec les jeux vidéo, avec Internet et ainsi de suite depuis une quinzaine d'années. Et là, maintenant, si il est sûr, le jeune homme ou la jeune femme, de, en frappant quelqu'un la tête au sol, d'être sûr que 3 heures après, il est sorti. En gros, ça lui a juste mis en retard dans son planning. Ce n'est plus possible.
Et il faut s'autoriser aujourd'hui que ça ne soit pas un tabou de mettre au centre de cette répression, cette réponse même pénale, la place et le rôle des parents.
Tout à
on
fait.
On peut pas continuer comme ça, à dire aux parents.
Un autre délitement et l'éducation. Exactement. L'éducation, on l'a vu. Moi, je l'ai vu à l'école de mes enfants, où en fait, il y a des parents qui reproche aux enseignants de ne pas leur apporter l'éducation. Donc je me suis mis en colère, ce n'est pas possible. L'école, dans sa grande idée philosophique, est là pour transmettre du savoir. Elle n'est pas là pour inculquer les valeurs. C'est les parents et la famille d'inculquer les valeurs.
Très rapidement, oui, okay.
Et il faut des sanctions courtes. Il faut regarder ce qui se passe, par exemple, dans les pays du nord de l'Europe. À chaque fois qu'il y a un jeune qui commet un acte délictueux, sanctions. Peine, et après, évidemment, appliquer, et surtout, exemplarité. Parce qu'à partir du moment où on sanctionne quelqu'un pour un acte, je peux vous dire que il montre l'exemple, et après, les jeunes ne bougent plus.
Le professeur Maurice Berger parle du premier fait de violence, 15 jours de prison ferme.
Ben voilà.
On va parler de crack encore ce midi. Ils manifestent aujourd'hui leur colère porte de la Villette à Paris. Les riverains complètement délaissés depuis un an. Un an déjà que la préfecture a déplacé les toxicomanes, vous le savez, qui occupaient auparavant le célèbre jardin d'Éole dans le nord-est de la capitale. Sur place, la situation est délétère. Je vous propose de regarder le reportage de Jeanne Cancard.
C'est la nuit et le jour, oui. Parce que moi-même, on ne pouvait plus y passer. Enfin, on y passait avec réticence.
Depuis quelques mois, cette habitante du 18e arrondissement de Paris revient dans le jardin d'Éole où les animaux ont remplacé les consommateurs de crack délogés il y a un an. À l'intérieur et aux alentours du parc, les riverains ont retrouvé un quotidien apaisé.
Moi avant c'était un cauchemar ici. J'avais envie de partir d'ici plus tôt possible. C'est mieux qu'avant. Avant c'était vraiment tous des craqueurs dans le parc.
Mais à seulement 2 km plus au nord, on replonge dans l'enfer du crack, porte de la Villette, où ont été déplacés les toxicomanes. Nuit et jour, ils achètent et consomment cette drogue bon marché.
Ça coûte 10 euros, c'est même pas un gramme.
Sous emprise, des toxicomanes déambulent dangereusement entre les voitures. À la vue de notre caméra, l'un d'eux nous jette une bouteille en verre. Des réactions violentes, souvent provoquées par la prise de cette drogue ultra addictive. Devant ce supermarché, quotidiennement, des bagarres éclatent. Il y a quelques jours, le gérant a été blessé par l'un des consommateurs de crack et porte désormais des gants.
C'est pour me protéger le minimum. Souvent, les gens ils sont très violents. On a déjà eu des femmes, des hommes qui sortent des couteaux, qui nous menacent. Donc forcément, on a besoin de se protéger un peu.
Pour tenter de trouver enfin une solution durable pour les riverains et les toxicomanes, une réunion doit avoir lieu début octobre entre le nouveau préfet de police de Paris et les maires concernés par le fléau.
Une petite réaction, Marion Parizet. On a le sentiment qu'on déplace le problème à chaque fois, mais qu'on n'arrive pas à trouver de solution.
Oui, on le déplace exactement. C'est ce que fait la mairie de Paris avec le problème des toxicomanes depuis quand même déjà assez longtemps. Avec la création en plus de salles de shoot en parallèle pour essayer de tempérer, supposément, de contrôler l'utilisation, le recours à des drogues, ce qui paraît complètement hallucinant aujourd'hui. Et les Français, enfin les Parisiens en tout cas, s'en rendent compte. Ils ne sont absolument plus naïfs vis-à-vis de ça. Ils voient bien que c'est en bas de chez eux qu'ils sont menacés. Je connaissais quelqu'un qui habitait près du canal il y a quelque temps, quand il y avait encore le jardin Éole à côté. Il me disait, je prends des pièces dans mes poches le matin pour que si quelqu'un m'en demande et qu'il devient agressif, je lui balance pour qu'il parte loin. Juste pour acheter la paix, oui, pour pouvoir se déplacer. Des gens qui vont jeter des pièces comme dans une cour des miracles, c'est vraiment n'importe quoi. Et aujourd'hui, on parle en plus, donc là, on voit la porte de la Villette, mais on ne mentionne pas assez souvent que juste à côté, nous avons quand même un grand parc, avec des structures qui sont adressées aux enfants, aux familles, la Cité des Sciences, et eux aussi en souffrent. J'ai pu parler récemment avec certains dirigeants de cette structure, et ils le voient, et ils voient toute la situation se dégrader. Donc là encore, c'est les riverains, c'est tout le tissu économique, et c'est aussi des structures qui sont là pour l'éveil éducatif de chacun, pour le rayonnement de la France, qui sont touchées parce qu'on n'arrive pas à prendre des décisions qui sont sérieuses sur ce sujet.
C'est juste l'abandon d'un quartier en direct.
Exactement.
Mais un quartier différent à chaque fois en fonction des déplacements.
Ils vont manifester leur ras-le-bol aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Stéphanie Benoît, qui est porte-parole d'une association de riverains, Villette Village.
Vous sortez de chez vous, c'est l'hypervigilance. Vous êtes confronté aux scènes les plus horribles, des corps en putréfaction, des gens qui vous réclament de l'argent avec beaucoup, beaucoup d'insistance. Et dès que vous ne cédez pas, on s'expose à des violences. C'est des personnes dénudées qui défèquent dans les rues, voire se masturbent, des gens qui consomment dans les rues. C'est notre quotidien en tant que riverain, c'est notre quotidien aussi en tant que commerçant, en tant que personne qui travaille sur le secteur. Et c'est plus vivable.
Je voulais qu'on revienne également ce midi sur cette autre violente agression, cette fois d'un homme de 92 ans. Cela s'est passé dans le 19e arrondissement à Paris. Il a été agressé par un toxicomane. Écoutez les explications de Jean-Christophe Couvy de l'unité SGP Police.
On a retrouvé cet agresseur grâce à la vidéosurveillance. Et oui, encore la fameuse vidéosurveillance, comme quoi elle est très utile malgré tous les détracteurs. Et puis nos collègues ont fait une grosse opération deux jours après. Et donc ils ont recoupé, ils ont retrouvé cet individu, ils l'ont arrêté, ils l'ont interpellé et la personne a été déférée. Et ils sont prêts à taper et presque tuer un individu qui a 90 ans, une personne, un grand-père, qui pourrait être leur grand-père, tout ça pour récupérer 10, 20, 30 euros. Donc voilà, c'est vraiment dramatique d'en arriver là et cette drogue est un fléau.
Un campement de migrants au cœur de la capitale, à Paris, au beau milieu de la place de la Bastille. Ce sont entre 80 et 100 personnes qui ont été évacuées hier matin. Elles ont passé tout l'été sur la place, aidées par l'association Utopia 56, qui réclame, vous le savez sans doute, des structures d'accompagnement et d'hébergement pour les mineurs isolés. Seulement voilà, le camp posait clairement un problème de salubrité publique. Il était frappé par une épidémie de gale. Les riverains sont soulagés mais craignent encore le retour de ces migrants. Reportage d'Amaury Bucco, Olivier Gandeloff et Inès Alicane.
Opération démantèlement de camps, installée depuis plus de 3 mois, place de la Bastille. Et soulagement pour les riverains. Selon le communiqué de la préfecture de police, il a d'abord été détruit pour raisons sanitaires. Une épidémie de gale avait été constatée par l'agence régionale. Ce camp accueillait plus de 100 personnes, dont certains en attente d'un statut de mineur non accompagné. Une victoire pour ce collectif de riverains qui lutte depuis plusieurs mois.
Et nous, on s'est regroupés en tant que riverains pour faire quelque chose, agir, pour pas que notre quartier, qui est si joli, soit dans cette situation déplorable. On a eu aussi très peur que ça ressemble à d'autres arrondissements parisiens, dans le nord de Paris.
Si les riverains ne comptent pas en rester là, et craignent qu'une fois l'épidémie traitée, les migrants soient de retour. Les commerçants aussi sont inquiets. Certains évoquent une perte de 50% de leur chiffre d'affaires.
Au niveau de chiffre d'affaires, on a perdu beaucoup d'argent, parce que surtout que nous, on est à côté de l'opéra, et l'opéra, il a une clientèle pas trop jeune, ils sont âgés, et les gens, ils ont peur de venir à Bastille.
D'autres ont même subi des agressions.
Et les mecs qui viennent, ils traversent la rue. Pourquoi tu montes tes doigts sur moi? Ils m'attrapent par là. Et vraiment, c'est honteux. À mon âge, je ne veux pas me disputer dans la rue.
Certains jeunes migrants du camp ont d'ores et déjà été acheminés vers des hébergements pour adultes.
Marion, Marie, c'est marrant quand on traite tous ces thèmes ce matin, qui sont loin d'être drôles évidemment, mais on le voit, les riverains sont soulagés, mais là aussi, ils se disent, ok, ils sont partis, ils risquent de revenir. Le crack, c'est pareil. En fait, on a l'impression que c'est toujours la même petite musique là.
Et là, je dirais, il y a encore un autre niveau d'analyse à avoir, c'est qu'on a aussi une instrumentalisation politique par certaines associations, comme ça a été le cas sur des installations de migrants dans des parcs pour provoquer de la part des services publics, d'exiger des logements, toujours exiger, mais on a une prise en otage au final, une prise en otage d'un quartier par des associations qui ont un but derrière, qui est un but politique. Hein, ne nions pas, ce n'est pas juste une installation.
Qui sont financées par l'État.
Qui est parfois financées par l'État, souvent aussi. Et donc, on se retrouve avec une situation assez absurde. Et derrière, il ne faut pas le minimiser, parce que ce n'est pas juste des migrants qui sont en absence de solution et qui se retrouvent là. Ils sont utilisés à profit par des logiques qui sont des logiques qui voudraient qu'en fait on régularise tout le monde, qu'on intègre tout le monde, qu'on donne des foyers, des logements à chacun de ces immigrants, alors que les Français sont déjà dans des situations difficiles, extrêmement compliquées, et qu'on ne peut pas simplement se dire tout donner gratuitement à des personnes qui viennent pour la plupart d'entre elles de manière totalement illégale en France.
On va marquer une pause. On se retrouve pour la poursuite de ce grand JT de Midi News Weekend dans quelques instants. Et on parlera de Selim, 86 ans, qui a dû se battre pour récupérer son logement squatté. Et on lui demande 100 000 euros. Enfin, Veolia lui demande 100 000 euros. A tout de suite. Vous êtes bien sur CNews. Il est 13h30, c'est Midi News Weekend jusqu'à 14h, dernière ligne droite. C'est le grand journal de Midi News Weekend avec moi qui m'accompagne ce matin, Naïma M. Fadel. Ravi de vous accueillir, Naïma. Marion Parizet, Denis Deschamps et Kevin Bossuet. Et nous serons en relation, évidemment, au cours de ce journal avec Harold Iman, notre spécialiste politique étrangère. Poursuite donc de ce journal avec vous. Ce matin, je voudrais évoquer cette dramatique histoire. Ça se passe en Seine-Saint-Denis à Saint-Ouen. Selim, à 86 ans, a dû se battre pendant 4 ans pour obtenir l'expulsion des occupants de son immeuble. Il a récupéré son bien totalement saccagé, on le voit sur ces images, et totalement insalubre. Mais cerise sur le gâteau, Veolia lui demande de régler une ardoise d'eau, tenez-vous bien, de 100 000 euros. Explication de Nicolas Vinclair, Sybille Delettre et Maureen Vidal.
Vous entendez les rats ?
Des rongeurs qui pullulent, un sol jonché de détritus et des infiltrations d'eau. Ce taudis, c'est le rêve d'une vie qui a viré au cauchemar. Après 4 ans de procédure, les squatteurs sont enfin expulsés en août dernier. Un soulagement de courte durée.
Entre-temps, au mois de mai, on a reçu une facture de Veolia qui nous réclame la somme de 97 000 euros pour une consommation d'eau.
Près de 100 000 euros de facture d'eau et aucune compensation. Les squatteurs condamnés à payer 400 euros chacun n'ont toujours pas donné un centime. Un choc énorme pour le propriétaire qui a du mal à en voir le bout.
Il est épuisé, il est fatigué et il n'avait plus d'espoir. Donc quand il a reçu la lettre de Veolia, comme il dit lui-même, ça a été comme un tremblement de terre pour lui, il ne s'y attendait pas. Ça l'a beaucoup, beaucoup touché, surtout à son âge, 86 ans. Donc il espère que ça se finisse le plus vite.
Le père et son fils ont tenté une conciliation avec Veolia, restée sans réponse pour le moment. En attendant de trouver une solution définitive, l'immeuble a été muré et l'entrée renforcée pour éviter qu'il soit de nouveau squatté.
Marion Parizet, c'est terrible cette histoire, parce que Selim, 86 ans, il a travaillé toute sa vie pour avoir cet appartement, son petit pécule, etc. C'est la victime, et en fait, c'est lui qui trinque là.
C'est la victime, et moi je me demande vraiment comment... où est la justice dans cette situation? Ces personnes-là, elles ont été expulsées, donc elles ont... J'imagine qu'on a pris leur identité. Quelles sanctions est-ce qu'on peut envisager contre ces personnes, puisqu'elles ont quand même occupé un bien pendant 4 ans. Elles l'ont mis dans un état déplorable. Elles ont consommé de l'eau qui aujourd'hui en plus est une ressource rare, sans qu'aujourd'hui il soit entamé quoi que ce soit contre eux, contre elles. Je ne sais pas de qui il s'agit. Est-ce qu'ils sont de manière générale. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour que ce soit effectivement eux aussi qui portent la responsabilité de cette histoire, parce que là derrière, en effet, on a l'impression de se retrouver finalement à un état où il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'état de droit dans cette situation.
Exactement. Denis Deschamps, on peut espérer que Veolia fasse un geste à l'égard de Selim, 86 ans quand même, non?
Et ce qui est,
on fait passer le message.
Ce qui est frappant, c'est que Veolia ne répond pas à la demande de conciliation. Ça, c'est scandaleux. L'État devrait être dépositaire d'une force supérieure en disant « Là, stop, il y a une situation anormale, on résout la chose et la personne qui est victime ne devrait pas en subir les conséquences ». L'autre élément, c'est qu'on a affaire au droit de propriété. Là, ils ont occupé un bien en toute impunité. On parle de 97 000 euros d'eau, mais là, il y a plus de 100 ou 200 000 euros de travaux. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, donc en fait, le droit de propriété est bafoué, ce qui n'est pas normal parce que notre société est basée également, pas que, mais également aussi là-dessus. L'autre élément qu'il faut noter, c'est qu'il va bien falloir aussi que dans des situations où le Mikado est extrêmement complexe dans ces cas-là, qu'il y ait une autorité de l'État en disant là, il faut poursuivre ces gens, parce que comme ce n'est pas eux, vous savez, c'est un peu comme on retrouve ça dans certaines entreprises ou à l'État, dans des services de l'État ou dans des coopératives, quand ce n'est pas notre argent, on se permet de faire toutes les bêtises possibles. Donc vous avez vu dans l'État où a été mis le bien, si oui, ça leur appartenait, quand c'est notre argent, on fait beaucoup plus attention en général. Donc là, c'est absolument anormal d'avoir laissé faire ça, parce que là, il y a eu un laisser-faire pour mettre ça dans un état comme ça, ça a pris du temps. Donc laisser faire ça. Et deux, le problème, c'est que ces gens sont insolvables.
ils sont totalement insolvables. Donc comment est-ce que l'on fait ? S'il n'y a pas une autorité suprême pour rétablir la chose, réparer ça pour une personne de 86 ans, hein, c'est le fruit d'une vie, le travail d'une vie. Là, c'est pas normal et ce n'est pas un fait isolé.
En bref, a signé la fermeture de l'aéroport de Montpellier ce matin après la sortie d'un avion de fret, un Boeing 737 en phase d'atterrissage, est sorti de la piste et a fini sa route dans un étang. Fort heureusement, les trois personnes présentes dans l'avion sont indemnes, 60 pompiers sont mobilisés. Cette proposition d'Emmanuel Macron avait fait polémique, vous en souvenez sans doute, lors de la campagne présidentielle, conditionner le RSA, le revenu de solidarité active, à quelques heures de travail par semaine, 15 à 20 heures. L'exécutif souhaite donc tester cette mesure dès l'automne. Plusieurs départements, comme la Somme, se disent intéressés. Écoutez le président du conseil départemental, Stéphane Assoulier.
Aujourd'hui, nos concitoyens qui sont les moins payés ne comprennent pas que nous ayons comme ça des gens qui ne participent pas aussi à l'effort national. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que dans une période où l'emploi est même beaucoup plus présent que certainement l'époque où le RMI d'abord, puis le RSA ensuite ont été créés, c'est de plus en plus incompréhensible que des milliers d'offres d'emploi ne soient pas pourvues, alors même qu'elles existent, qu'elles sont proposées, qu'elles ne nécessitent pas toujours de grandes formations. Et donc c'est bien en contrepartie de cette allocation versée par le conseil départemental, inciter celles et ceux à reprendre un emploi. Savez-vous aujourd'hui qu'un couple de personnes, et je ne stigmatise personne, qui sont au RSA avec deux enfants, touche à peu près la même chose que si le même couple, avec les deux mêmes enfants, le monsieur travaille au SMIC. À un moment ou à un autre, celui qui travaille au SMIC se pose la question de savoir s'il a encore un intérêt à travailler.
Durant la diffusion de ce témoignage, ça discutait fort autour de ce plateau. Naïma Mfadel, ça vous laisse pas insensible.
Non, hein. Ce qu'il dit est juste. Et d'ailleurs, je voudrais juste rappeler que le mouvement des Gilets jaunes découlait aussi de cette aberration où pratiquement les personnes qui ne travaillaient pas, avaient juste légèrement 100 à 200 euros seulement de différence avec ce que vous appelez les travailleurs pauvres. Le RSA, normalement, c'est un dispositif qui permet de tendre la main à des personnes qui, à un moment, se retrouvent en difficulté et de remettre les pieds à l'étrier. Et ce n'est pas quelque chose qui devait être pérenne. C'était donc, ça a suivi le RMI. Sauf que c'est devenu quelque chose, en fait, comme une pension. Mmh. Et qu'on a eu une dérive, parce que même ceux qui avaient en charge le suivi des RSA, tels que les associations ou bien des collectivités via le Centre communal d'action sociale, en fait, les rencontraient ces personnes qui étaient au RSA, mais il n'y avait pas de proposition réellement de pouvoir les accompagner vers une sortie positive et notamment le fait aussi peut-être de les mettre à contribution pour des activités même au niveau d'une mairie. Et je dirais même que les conseils départementaux disaient on n'a pas le droit. Donc moi je trouve que c'est très bien ce que souhaite faire le gouvernement, sachant que actuellement c'est pas seulement donner du temps dans des activités pour les collectivités, les associations ou même pour de la recherche d'emploi pour une sortie positive, c'est que de ces temps d'activité, il va y avoir un revenu qui va s'additionner au RSA. Donc je ne sais pas si vous l'aviez vu. Alors moi, je vous avoue que j'ai été un petit peu choquée de ça, parce que je me suis dit, ben non, vous êtes au RSA, vous donnez du temps, ce temps-là vous permet de mettre en place un processus d'accompagnement pour une sortie positive, pour une formation, pour trouver un emploi, etc. Et c'est normal de donner un peu de temps aussi à la collectivité, quand même, qui vous tend la main. Mais là, il y a quand même l'idée d'additionner un revenu qui serait tiré de cette activité en plus.
Allez, on va prendre la direction de l'Ukraine. On va retrouver Harold Iman, qui est notre spécialiste des questions internationales. Harold, les habitants des régions ukrainiennes occupées par l'armée russe sont appelés aux urnes dans un référendum de rattachement à la Russie. Harold, c'est quoi l'intérêt ?
L'intérêt pour Vladimir Poutine, car c'est lui qui décide, c'est de rattacher ces quatre districts, des oblasts, comme on les appelle, celui de Donetsk et de Lugansk, qui sont déjà dans son orbite depuis longtemps, depuis 2014, plus Zaporizhia, plus Kherson, afin de faire une continuité territoriale entre la Russie proprement dite et la Crimée, et d'englober tout cela dans un tout qui serait la Russie même. Un référendum donc qui légitimerait le rattachement à la Russie elle-même, et donc toute attaque ukrainienne contre cette zone serait une attaque contre le territoire souverain russe, et donc l'Ukraine deviendrait l'agresseur. Et donc vous voyez sur la carte la tache verte, les soldats ukrainiens sont en train de pénétrer dans une partie de cette nouvelle fantasmagorie territoriale de Poutine, et cela est peut-être l'explication du pourquoi du moment d'avoir choisi ce moment précis pour précipiter cette incorporation de ces zones dans la Russie. Et bien sûr, ce référendum se fait dans des conditions totalement hors normes, avec très peu de représentativité.
Merci mille fois pour ce décryptage, mon cher Harold. C'est toujours très, très précieux. C'est une parodie de démocratie, Denis Deschamps, non ?
C'est un sujet. C'est un sujet.
On peut en parler.
Moi, je pense qu'on va en parler. Je pense que pour lire cette situation, qui n'est pas nouvelle, hein, ça a été préparé déjà depuis 3 ou 4 mois, dont nous, on en a entendu parler, donc ça veut dire que c'était préparé bien en amont. En fait, il faut lancer la lumière dans un prisme pour voir plusieurs étages de lecture. D'abord, il y a la première lecture, c'est la lecture tactique sur le terrain. La lecture tactique sur le terrain, c'est que les Russes ont perdu plus de 4000 km². Alors vous me direz, c'est peut-être des plaines et tout ça. Bon, peu importe. En tout cas, il y a un reflux. Donc là, ils sont en train de perdre un certain nombre de territoires par rapport à 3 facteurs. Le premier, c'est que les Ukrainiens sont très bien informés. L'information, c'est le nerf de la guerre. Le deuxième facteur, c'est qu'ils sont très bien armés, avec probablement quelques conseillers techniques de certains pays qui sont là pour les soutenir. Le troisième élément, il y a la détermination. Ça, c'est le phénomène tactique. Il y a le phénomène stratégique. Le phénomène stratégique, c'est qu'effectivement, maintenant, puisque le référendum ne fait aucun doute sur le résultat, moi j'appelle ça donc le syndrome de la Crimée, hein, le concept de la Crimée, c'est-à-dire l'envahissement démocratique. Donc en réalité, maintenant, il y a un vernis démocratique qui justifie la situation. Donc maintenant, si on attaque une partie de ces 4 territoires, ça va enclencher automatiquement une attaque contre la Russie, la Fédération de Russie, pardon, donc le territoire de la Russie. Ce qui implique, en dérivée seconde, ce dont personne ne parle, c'est que Poutine a commencé à préparer les jalons pour dire « Attention, vous armez les belligérants en face de nous, nous la Russie, vous êtes co-belligérants et ça va commencer à monter en régime. » Donc là, en fait, on est dans un truc où tout doucement, les choses se dégradent et moi j'appelle ça le syndrome de Sarajevo. Tout le monde se tient et finalement, à la fin, ça va se compliquer sérieusement. Troisième niveau de lecture, c'est la lecture politique. Parce que nous, on a notre regard d'occidentaux et on est en train de toujours dire « Ah, il perd du terrain, il n'est pas écouté, il est tout seul en son coin ». On n'en sait rien. Tout ça, ce ne sont que des mots. Mais on n'est pas autour de Poutine. Poutine est encore là. Et en fait, Poutine, effectivement, maintenant, il fait appel à la réserve, où il y a 1 million de personnes dans la réserve. Là, il en appelle 300 000. Et là, en fait, il est en train de mobiliser, lui aussi, son opinion publique pour dire « Nous sommes en guerre ». Et effectivement, ça fait des drames, incontestablement. Je rappelle que la Russie a fait Vostok 2018 des tests, enfin des manœuvres grandeur nature d'1 million de soldats. Donc il a encore de la réserve. On a beau dire, il est épuisé, il a du vieux matériel, peu importe. Il a les moyens de faire une très grande guerre.
Très rapidement, Meyer Maïs.
Oui, alors une manœuvre peut être très grande, mais ça n'équivaut pas à réussir à mener la guerre avec 1 million de personnes.
Ça peut faire mal. N'oublions pas que nous sommes dans une guerre de 39-45, oui, avec des tranchées, des sales guerres.
Ce qui est intéressant d'observer dans cette situation-là, c'est que derrière, on voit quand même que Vladimir Poutine est obligé d'accélérer le rythme sur un certain nombre d'actions qui étaient sans doute prévues de longue date, mais qu'il n'avait peut-être pas prévu d'enclencher aussitôt. Mais que là, dans l'état actuel des choses, avec la reprise en main du tempo un peu de l'offensive par l'Ukraine, il se trouve forcé de remettre un effort extrêmement lourd. On le voit par justement le recours à la réserve. On le voit sur cette question des référendums pour pouvoir reprendre la main avant l'hiver et réinstaurer le rapport de force, regagner le rapport de force avant de rentrer dans la période la plus compliquée et la plus difficile de cette guerre. C'est un peu celui qui sera en position et qui aura réussi à maintenir le maximum de territoire en sa possession à l'entrée dans l'hiver aura gagné un avantage exceptionnel pour tenir les 6 prochains mois de la guerre et devra du coup et aura un peu le haut de la main pour pouvoir négocier éventuellement si un jour négociations se font.
Allez, n'oublions pas l'hiver, Napoléon, Hitler, n'oublions pas l'hiver russe. Hein.
Retour en France avec ce hashtag « On veut des profs ». Des dizaines de parents d'élèves ont décidé de former un collectif et d'attaquer l'État parce que l'éducation nationale se montre défaillante. On en a beaucoup parlé tout au long de cet été sur les plateaux de CNews. Trop d'absences de professeurs non remplacés, c'est un manquement au droit de l'instruction. Selon eux, 79 000 heures de cours ont été perdues au cours de l'année scolaire. Je vous propose d'écouter L'avocat de ce collectif de parents d'élèves, maître Louis Lefoyer de Costil.
On n'est pas juste sur un problème de sous, on est aussi sur un problème en fait, de faute et de manquement à une obligation de l'État qui est celle d'assurer l'enseignement public. Donc on n'est pas juste sur un problème, enfin on est sur une carence de l'État qui est quand même caractérisée. Et c'est pour ça que comme il y a vraiment une faute de l'État, on peut engager sa responsabilité. Donc ça peut paraître un peu absurde, mais en vérité, c'est simplement faire valoir les droits des parents et obtenir réparation, même si c'est symbolique, d'un préjudice qui est loin d'être symbolique, à la fois pour les parents, pour les enseignants et j'ai envie de dire même pour l'institution, pour l'école publique en général.
Kevin Bossuet, pas de surprise.
Non, pas de surprise. Après, on attaque souvent l'éducation nationale. Il est vrai qu'il y a des problèmes au sein de cette grande institution. Il est vrai qu'à certains endroits, on manque de professeurs. Mais globalement, ça fonctionne quand même. Je veux dire que quand on prend l'ensemble, moi je vois en Seine-Saint-Denis par exemple, il y a dans certains établissements quelques manques de professeurs, mais dans la grande majorité, tous les professeurs sont là. Après, je comprends évidemment les parents, c'est l'avenir de leurs enfants, c'est l'éducation de leurs enfants. Il n'est pas normal qu'un enfant soit privé, par exemple, de cours de français pendant 3 mois, mais attention aussi à ne pas faire de l'éducation nationale une cible. C'est une institution qui fonctionne avec des professeurs qui sont souvent motivés, donc je comprends la démarche. Mais bon, voilà, soutenons plutôt notre éducation nationale, elle en a besoin.
Allez, je voudrais qu'on...
Passionnel. Souvent, le sujet passionnel,
oui, c'est les enfants. C'est très bien que les parents se saisissent aussi de cette question de l'absence des professeurs. C'est pas possible, on a tous vécu ça. Donc aujourd'hui, peut-être que ça fera changer de positionnement l'État.
Allez, on va rester dans l'éducation de nos enfants qui vous sont chers, ma chère Naïma, puisqu'on va parler de cette initiative originale pour lutter justement contre le décrochage scolaire. Des rappeurs qui distillent des cours d'histoire ou de physique en chansons. L'idée, c'est de captiver l'attention des élèves pour les aider à réviser. C'est une application StudyTrax qui propose cela. Petite démonstration avec Kobalade qui dispense un cours d'histoire sur Louis XIV. C'est une star chez les jeunes, je crois. Hein. Vous me confirmez?
Malheureusement.
Hein, c'est ça. Voilà. Allez, on l'écoute, on en parle très rapidement, mais c'est je voulais évoquer cette initiative.
Les journées du roi soleil sont toutes complètes organisées. Il suit un programme strict préparé par ses officiels. Le lever et le coucher sont des rituels monarchiques. Il attire le regard et recueille hommage du public. Oh, Peter, sur voilà le roi est réveillé, la vépée bien rasée. Le petit levé, bientôt le grand levé.
Mais je vous vois en train de danser, Kevin Bossuet, là, en thème. C'est quoi vous imaginez, ça donnerait quoi un cours de Kevin Bossuet en... Allez.
Yo, vive Louis XIV, yo.
Voilà, si vous êtes bon regard, fantastique. Donc vous en pensez quoi?
Non, mais sincèrement, je trouve que c'est mépriser les élèves. Il y a eu un courant depuis plusieurs années, le courant des pédagogues qui nous raconte que finalement, les élèves ne peuvent plus rester assis sur leur chaise et à écouter un cours classique. Il faut amener de l'amusement. Évidemment qu'aujourd'hui, il faut amener du ludique, évidemment, qu'il faut faire en sorte que les cours soient dynamiques, soient captivants, mais ce n'est pas ce genre de choses. Enfin, les élèves ont le droit à des cours normaux, ont le droit à des connaissances qui sont précises, des connaissances qui sont robustes et ils n'ont absolument pas besoin de ces clowns qui veulent remplacer les enseignants par quelque chose qui relève finalement de la fausse sceptique.
Comment vous avez fait là? Vous pouvez refaire?
Yo, wesh.
Non, c'est affligeant et c'est méprisant et c'est encore une fois le misérabilisme. Et je sais très bien que ce genre d'action va s'adresser aux quartiers populaires, alors que les quartiers ont le droit aussi à la qualité de l'enseignement, bien à accéder aux grandes œuvres françaises, à cette culture française qui est magnifique. Et je trouve ça affligeant et je trouve ça même dénigrant, en fait. C'est vraiment dénigrant parce qu'on suppute que ces gamins-là, notamment des quartiers populaires, ne sont pas à capacité.
Et c'est
souvent
faux.
Je le dis, moi je suis un pur produit de l'école française, je suis arrivée à 8 ans et demi en France, je ne savais ni lire ni écrire,
Et heureusement que j'ai pu accéder à ce qu'est la France et à cette culture française.
On a compris le message, mon cher Naïma.
C'est scandaleux, moi ça me...
Très rapidement, deux brefs pour terminer ce journal, ce mini news week-end. Crise énergétique oblige les monuments municipaux éteints la nuit à Paris dès hier. Parmi eux, la Tour Eiffel que l'on voit sur cette image. La Tour Eiffel qui sera éteinte désormais à partir de derniers visiteurs. Aux alentours de 23h45, cet hiver, les Champs-Élysées seront aussi moins éclairées. Quant aux illuminations de Noël, les célèbres illuminations de Noël de Paris, elles seront éteintes dès 23h45 contre 2h du matin les années précédentes. Et puis, pour terminer, on va parler de tennis. Vous êtes fan de tennis,
bien sûr, oui,
évidemment. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais Roger, Mario est comme Roger, il est sur toutes les balles. Voilà.
Oh, c'est facile.
C'est un homme.
Voilà. Et Marion est une
aussi élégante que Roger.
Donc voilà, je vous propose de terminer avec ces images de Roger Federer qui a disputé son dernier match avec son copain, oui. Et qui était néanmoins son rival, Enamel Fadal. Le sport est magnifique avec ces images. On reviendra sur tous les adieux en larmes, parce que le résultat, honnêtement, on s'en moque un peu.
Il a perdu,
mais on s'en moque. C'était un super méga champion.
Mais oui.
Vive le sport. Vous êtes bien sûr CNews. En tous les cas, c'est la fin de Mini News Weekend. Merci, ma chère Naïma M. Fadel. Merci, Marion Parizet. Donc, vous êtes un génie.
Elle est aussi élégante que Roger.
Voilà. Merci Denis Deschamps, toujours très élégant.
Merci.
Kevin Bossuet, encore une petite dernière là.
Wow, yo. Voilà.
Merci mille fois de nous avoir suivis. Merci à David Brunet, à Sabrina Slimani, à Anne-Isabelle Tollet. Merci aux équipes de la programmation, à Jacques Sanchez et Barbara. Merci aux équipes évidemment en régie. Tout de suite, c'est Barbara Klein et la belle équipe. Moi, je vous souhaite une très belle journée sur CNews et je vous retrouve demain. 12h, n'oubliez pas, 12h, 13h, Mini News Weekend. Bonne journée.